Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 12. Meunier souffrait du syndrome de Moby Dick dans sa forme pacifique et continentale. Il cherchait une panthère en place de la baleine et voulait la photographier au lieu de la harponner. Mais il brûlait du même feu que le héros d'Herman Melville. Pendant que mes amis détaillaient le monde à la lunette, j'étais à l'affût d'une pensée, pire, d'un bon mot. J'écrivais des aphorismes dès que je le pouvais. L'occasion était difficile car les gerçures faisaient saigner les doigts. Je tenais les histoires naturelles de Jules Renard pour le plus bel hommage qu'un homme muni d'un calepin puisse rendre à la nature. Jules Renard bénissait la joliesse du monde avec la seule chose dont il disposait, les mots. Ces leçons de choses redessinaient la vie, recréaient le peuple de l'herbe, du ciel et des étangs. Il voyait une araignée toute la nuit au nom de la lune. Et la pose s'est scellée. Croisait un cafard, noir et collé comme un trou de serrure. Débusquait un lézard, fils spontané de la pierre fendue. Je me forçais à croire que ces pensées surgissaient à la conscience de leur auteur déjà formulée, comme si un appareil photographique avait été capable de déclencher seul son obturateur. Jules Renard avait décrit des campagnes de bocage et des bêtes d'épinal. Que lui aurait inspiré le monde de Meunier, de glace et de loup? Je m'essayais aux histoires naturelles. Je lisais mes aphorismes à mes compagnons et récoltais un sourire gêné ou une approbation polie. Gazelle, la femme pressée, fuse, penser dans l'esprit du lieu. Âne sauvage, chez lui, la dignité des incompris. Méandre, à force de regarder les rivières du Tibet, les Chinois inventèrent les nouilles. Dieu s'est servi de la panthère comme buvard pour essuyer l'encre de sa plume. Grand-duc, le soleil finit par se lever pour voir qui a chanté toute la nuit. « Et l'homme ?» demanda Marie. « Pas droit à un aphorisme ?»« L'homme ?» dis-je. « Dieu a joué au dé, il a perdu. » La journée s'achevait, nous allions lever l'affût. Le Mékong gisait, flanc de poissons morts électrisés de froid. Le soleil se couchait, les méandres étaient en aluminium, l'ombre montait, touchait les crêtes, éteignant les sommets un par un. Quelques pointes, les plus hautes, restaient illuminées. La température tombait vite. C'était la grande pitié du froid et de la mort. Qui songeait aux luttes des bêtes dans le noir? Avaient-elles toutes gagné un refuge où tenir par moins 35 degrés? Nous redescendions vers la bonne chaleur. « L'appel du poêle !» criai-je à Léo. Dans une demi-heure, nous aurions une tasse de thé dans les mains. De quoi se plaindre? À la même heure, le troupeau des yaks domestiques regagnait les baraquements. Comme les bêtes de ferme, nous étions commandés par le ventre. En dépit de la haute opinion qu'il se fait de lui-même, l'homme finit devant la soupe. En descendant les flancs vers le fleuve immobile, je me remémorais l'enterrement de ma mère. Nous étions hébétés en ce jour du mois de mai. Elle était morte sans coup férir. Personne ne s'était préparé à l'inéluctable. Pendant la cérémonie catholique gréco-melkite, où son cercueil reposait devant l'iconostase, quelques-uns d'entre nous pensèrent que la vie ne serait plus supportable, que l'obscénité de sa mort nous emporterait à sa suite. Mais les heures passaient et soudain nous eûmes faim. Et voilà que l'assemblée, tant éplorée et se croyant inconsolable, se retrouva d'un même mouvement autour de la table du restaurant grec, mastiquant les poissons grillés et sirotant le vin résiné. Les glandes stomacales sont plus impérieuses que leurs homologues lacrymales, et l'appétit du ventre me sembla ce jour-là le plus grand agent consolateur de la peine des hommes. Je cherchais la panthère. Qui cherchais-je vraiment? Grandeur de l'affût animalier, on traque une bête, c'est votre mère qui vous visite. Le paysage était un éventail. Des plans de versants écrus s'intercalaient entre des arrière-mondes froissés de neige. La neige poudrait les plissements, les dieux se drapaient. Munier formula la chose avec moins d'afféterie. La neige travaille comme un photographe de l'agence Magnum, en noir et blanc. 10 barrales cotonnaient les versants. Ils s'enfuirent dans les escarpements de l'ouest. Ils déclenchaient des éboulements. Leur panique rompait l'ordre. La panthère les forçait-elle? Les rumeurs du camp montaient. Des martèlements, un vrombissement de générateur, des aboiements. Les meuglements raclaient la vallée. Les enfants couraient après les yaks et les rabattaient vers les enclos, les roulant comme des jouets vers le fond du canyon. À coups de fronde, ces mômes d'un mètre de haut menaient la coulée. Le moindre coup d'encolure les aurait éventrés, mais les énormes herbivores acceptaient d'être menés par ces petits bipèdes. La masse s'était soumise. Cela s'était passé dans le croissant fertile, 15 000 ans avant la naissance de l'anarchiste crucifié. Les hommes avaient rassemblé de grands troupeaux, les bovins avaient troqué leur liberté contre la sécurité. Leur gène se souvenait du pacte. Ce renoncement menait les bêtes à l'enclos et les hommes à la ville. J'étais de cette race des hommes bovins. Je vivais dans un appartement. L'autorité régentait mes faits et gestes et s'impatronisait dans mes libertés de détail. En échange, on me fournissait le tout à l'égout et le chauffage central. Le foin, en d'autres termes. Cette nuit, les bêtes rumineraient en paix, c'est-à-dire en prison. Pendant ce temps, les loups fouilleraient la nuit, les panthères rôderaient, les mouflons trembleraient accrochés aux parois. Que choisir? Vivre maigre sous les voies lactées ou ruminer au chaud dans la moiteur de ses semblables? Pour un 13e extrait.